et c'est avec Émilie pour le Croque Philo. Bonsoir Émilie.
Bonsoir à toutes, je ne sais pas si vous m'avez déjà entendu, je crois que je n'avais pas appuyé sur le bon bouton.
On ne t'a pas entendu pour le moment ce soir.
Alors bonjour Annie, bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans le chaos de nos organisations toujours un peu bousculées. C'est toujours rassurant de réussir à quand même te caler des rendez-vous, à se retrouver, même à distance, sur les ondes, t'entendre à défaut de se voir. Et aujourd'hui, justement, il va être question d'introduire une série de chroniques, donc de croque-philo, sur les sens, donc des chroniques consacrées aux sens. Quels sont nos sens? Que sont-ils? Que permettent-ils? Comment la philosophie a-t-elle défini leur usage et leur nature? Et en même temps que d'introduire généralement la question des sens en philosophie, je vais vous parler peut-être un petit peu plus de la question de la vue. Je vous dirai pourquoi la vue tout à l'heure. Donc on peut penser que la philosophie conçoit généralement, souvent, on pense que la philosophie comprend l'essence, on parle d'essence d'une part, et de l'intelligence, de tout ce qui concerne la vie de l'esprit d'autre part. Et ce n'est pas tout à fait par hasard, nous allons le voir, que on pense souvent que la philosophie sépare, distingue radicalement l'essence et la vie de l'esprit. Pourtant, les anciens en philosophie ont pensé l'essence, la vie sensible. Et la réflexion sur l'essence en philosophie porte des enjeux épistémologiques, culturels. Et penser l'essence, c'est souvent justement examiner des façons de penser la nature et le vivant, notamment comme le faisaient Platon et Aristote. Entre autres. Ils ont traité de ces questions et même si leurs écrits peuvent nous paraître aujourd'hui partiellement faussement scientifiques sur ces questions, on lit bien un intérêt pour le voir, c'est-à-dire qui voit, que voit-on pour ces questions. Et il s'agit aussi pour eux de rendre compte d'un mécanisme de la vision. Et c'est en cela que leurs pensées, leurs écrits nous paraissent parfois faussement scientifiques au regard des connaissances que l'on a établies depuis sur les mécanismes de la vision qui sont évidemment bien plus avancés. Mais on va le voir, avec Platon et Aristote, on avait déjà, entre autres, on avait déjà un certain regard, c'est le cas de le dire, sur les mécanismes de la vision et plus généralement sur la pensée des sens et ce que les sens valent pour nous et pour notre connaissance. Les anciens pensaient donc les sens et notamment la spécificité de la vue par rapport à l'ouïe et son éventuel primat, le fait que la vue soit sans doute peut-être le premier des sens. De même qu'ils se sont attachés à distinguer la vue de la vision, le fait de voir de ce qui est vu, et de toutes les conséquences que cela a entraînées sur la façon dont on peut connaître les choses par les sens, et notamment par la vue. Aristote, qui était dans une démarche encyclopédique du savoir, d'une philosophie de la connaissance, dans le troisième livre de son traité, intitulé « De l'âme », a écrit la première réflexion philosophique sur la connaissance sensible. Il décrit un système de perception sensible grâce à une catégorisation que l'on a retenue depuis, qui est celle des cinq sens externes que sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Aristote a catégorisé ces cinq sens comme étant chacun des modes de perception, des modes de sensation au sens où chacun d'eux permet à l'homme de percevoir son environnement, ce qui est extérieur à lui et qui le définit comme vivant dans cet environnement. La sensation ou les perceptions sensibles, chez Aristote, ne sont pas seulement passives. Elles sont des données sensibles qui ensuite sont intériorisées pour être traitées en quelque sorte ensuite en interne. Au niveau des sens externes, que sont donc les cinq sens, on a une forme de connaissance qui commence déjà à s'établir, une sorte de prise de possession du monde extérieur, hein, un peu comme le petit enfant et comme la psychologie l'a établi par degrés et par étapes, comme le petit enfant qui prend connaissance du monde extérieur d'abord par l'appréhension des sens. On apprend à différencier par les sens, hein, les objets, à les identifier, à s'orienter dans l'espace et dans le temps. On apprend aussi à nommer les objets et à s'en servir grâce aux sens. Et prioritairement, pour Aristote, même si cela restait une question chez lui, mais il y avait cette hypothèse que la vue soit le premier des sens, parce que la vue serait le sens qui nous fait appréhender le plus grand nombre d'objets, avant même de les identifier, de pouvoir les nommer. Dans l'espace et dans le temps, il est question d'abord, avant même de pouvoir les toucher, les goûter, les sentir, de les voir. Comme si la vue était le sens qui nous donnait le plus d'informations sur notre monde extérieur. Donc, plus précisément, à l'origine de la description des sens, on parle d'une physique, au sens d'une définition de la physiologie aussi des sens. Donc d'une physique, comme on l'entendait au 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire d'une science qui s'attache d'abord seulement à décrire la nature des choses, la constitution du monde et de ses principes. Et un philosophe qui a écrit, qui a vraiment pensé une physique philosophique, c'est Épicure. Épicure, notamment dans sa lettre à Hérodote, a écrit sur la vue ce qui suit. Je le cite. La vision est produite par l'arrivée à notre œil de petites particules qui émanent des objets dont elles gardent la forme. Quand Épicure écrit cela, il ajoute que ces petites empreintes qui arrivent jusqu'à nous, à notre œil, sont des simulacres. Donc des simulacres, on pourrait remplacer cela peut-être par des images illusoires. Des images, ça pourrait être bien. Ces images sont véhiculées par la lumière depuis les objets jusqu'à l'œil de l'observateur. On disait encore que l'objet pénétrait en nous par des espèces, c'est-à-dire qu'on avait l'objet immédiat de la connaissance sensible, grâce à la vue, c'était finalement une réalité intermédiaire entre une véritable connaissance et la réalité. Donc la vue aurait été, et le sens en général, puisque cette explication vaut pour tous les autres sens, la vue ou les sens seraient une forme d'intermédiaire entre la réalité des choses et la connaissance véritable de cette réalité. Mais cette intelligence est limitée à ce qui est directement appréhendé par les sens. Qu'en est-il alors si j'ai un sens défaillant, la vue ou l'ouïe, qu'en est-il alors de mon appréhension des choses, de la nature? Et une fois que je les ai appréhendés par les sens, ces objets, il faut que, au-delà de les identifier comme des objets concrets, il faut que je les fasse arriver dans mon esprit à un niveau des connaissances supérieures. Et c'est notamment ce sur quoi a réfléchi Aristote. Donc on aurait un premier plan que l'on vient de décrire de la connaissance sensible. Mais il y aurait aussi un plan supérieur, celui des sens dits internes. Car les données qui sont perçues par les sens de l'extérieur, elles s'arrêtent à la périphérie des organes sensoriels. Mon œil qui voit, ma peau, la surface de ma peau qui touche, mon nez qui sent, etc. Et donc, notamment lorsqu'il est question de la vue, les images des objets, ces simulacres qui voyagent par la lumière jusqu'à ma rétine, sont des données qui sont encore complètement matérielles. La raison, elle, elle est d'une nature spirituelle. Elle est au-delà, ou indépendante peut-être, de la matière. Et il faut que la raison ait un moyen de saisir ces données matérielles, parce qu'a priori, il n'y a pas de lien entre la réalité matérielle et la raison, si ce n'est l'intermédiaire des sens extérieurs. Il y aura donc entre les deux un intermédiaire pour intérioriser les données recueillies par les organes des sens. Ce rôle d'intermédiaire sera joué par les sens dits internes. Alors les sens internes, tels qu'ils sont pensés déjà par Aristote, et peu après lui, ne sont pas tout à fait, ne correspondent pas au sens externe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un sens interne qui correspondrait à la vue, un sens interne qui correspondrait à l'ouïe, etc. Mais au contraire, il y aurait, les données des cinq sens seraient recueillies par un sens unique qu'on appellerait le sens commun. Chacun des sens externes seraient des perceptions d'objets extérieurs, de qualité déterminée, des couleurs, des formes pour l'œil notamment, mais il resterait totalement étranger aux données perçues par les autres sens, ce que l'on perçoit par le goût, le toucher, l'odorat, etc. Et si nos possibilités de perception s'arrêtaient là, s'arrêtaient seulement au sens, par exemple, de l'œil qui est de déterminer la forme et la couleur d'un objet, si ma perception s'arrêtait là, le monde m'apparaîtrait comme un kaléidoscope d'images juxtaposées et me paraîtrait complètement incohérent. Mais l'être sensible, l'être qui sent, l'homme ou l'animal, est doté, pour Aristote, d'un sens commun, dont le rôle est de recueillir toutes les sensations externes, d'en prendre conscience, de les comparer entre elles, de les associer et éventuellement de rapporter à un même objet des sensations appartenant à des sens différents. C'est pourquoi le sens commun apparaîtra essentiel à Aristote pour penser la connaissance sensible. C'est une faculté qui, d'une certaine manière, nous fait prendre conscience de la sensation et relie le sens à l'intelligence. La classification des sens, les sens externes, les cinq sens classés comme tels par Aristote, elle est d'ailleurs aujourd'hui remise en cause parfois par les découvertes des neurosciences, car on a découvert des liens neuronaux entre les sens qui font que certains sens s'auto-influencent, comme par exemple la perception visuelle influence notre perception gustative ou auditive. Parfois, on n'entend par exemple pas ce que l'autre nous dit, mais on voit que l'autre nous parle. La vue vient soutenir le sens de l'ouïe. Donc l'idée même des cinq sens, comme nous l'entendons depuis Aristote, elle est complétée par ce que nous pourrions aujourd'hui appeler des sens internes, qui sont souvent dans les explications scientifiques actuelles, vues comme des moyens d'assurer et de saisir la relation entre les sens et la façon dont on arrive à constituer de véritables connaissances sur les objets de notre environnement. C'est aussi grâce à ces développements scientifiques que l'on a pu étudier chez de nombreux animaux le fait qu'ils aient certains sens plus développés que chez l'homme. Ce qui pourrait, ce sens interne-là qu'on a pu étudier depuis, notamment avec les neurosciences, ont pu montrer des liens internes entre les sens qui donnent des facultés particulières à certains animaux par rapport à l'homme. Donc les premiers théoriciens des sens, comme Aristote, ont focalisé leur attention sur les sens dits externes, liés à un organe, qui nous permettent de détecter des informations environnementales hors de nous, au détriment des temps internes qui nous informent sur l'état de notre corps et sur la façon qu'a notre organisme de réagir aux stimuli extérieurs. Mais tout l'enjeu est de réussir à proposer une véritable définition du sens. Et finalement, le problème principal, il est peut-être, même pour la philosophie, d'abord là, la stratégie pour les philosophes a consisté à déterminer des critères de distinction des sens, mais personne ne sait véritablement ce qui distingue un sens d'un autre. Ainsi, définir ce qu'est exactement un sens serait une première difficulté philosophique et scientifique, un premier problème quand on commence à se poser la question des sens. Comment le caractériser ? Parce que on voit par la science aujourd'hui que selon la façon dont on caractérise le sens, on peut considérer qu'il y a plus que 5 sens ou moins que 5 sens. Certains neuroscientifiques vont même, dans des théories assez radicales, considérer qu'il n'y aurait peut-être qu'un seul sens qui serait nuancé par toute notre organisation neuronale. Donc, concernant l'ordre de la connaissance, c'est une nature humaine qui a formé une distinction radicale entre le sens et la raison, et c'est davantage Platon qui avait distingué radicalement le rapport entre les sens et la raison. On ne peut pas penser la connaissance sensible et la question des sens sans comprendre comment Platon a radicalement distingué les deux. Pour Platon, l'homme tient à la fois du monde sensible et du monde intelligible. Pour lui, les choses sensibles, le monde terrestre, ce n'est pas la réalité véritable. Ce ne sont que des apparences, des ombres, des copies des choses de l'esprit que l'on peut percevoir avec l'esprit. Et c'est celles-ci qui sont vraies et ce sont les seules choses réelles. Le monde sensible, ce serait le monde perçu par les sens, et le monde intelligible, celui perçu par la raison. Et toute l'œuvre de la philosophie, ça consisterait à distinguer, à dégager la raison des apparences sensibles pour la tourner vers des réalités intelligibles que Platon appelle des idées, c'est-à-dire des réalités fixes et universelles. Vous avez peut-être entendu parler de la théorie, l'allégorie du mythe de la caverne. Et c'est par un petit détour, par le mythe de la caverne, que l'on peut tout à fait comprendre cette radicale distinction chez Platon entre les sens et la raison. Je cite un extrait de la fin de l'allégorie de la caverne de Platon. « Qu'on détache maintenant un de ses captifs, prisonniers, qu'on le force à se lever, à tourner la tête, à marcher et à regarder du côté de la lumière. Une fois habitué à cet éclat nouveau pour lui, il distinguera les objets réels d'avec les ombres auxquelles il attribuait une réalité illusoire. » On a là une véritable, dans cet petit extrait, une véritable image de la valeur du sens et notamment de la vue pour Aristote, une image même de la condition humaine. La caverne, c'est le lieu, le monde terrestre où nous vivons, où nous sommes captifs de nos sens et des ombres que l'on perçoit. Ce sont des apparences seulement de la réalité. Réalité que les sens ne peuvent tout à fait saisir, véritablement. Le captif, dans ce monde de la caverne, ce monde terrestre, se tourne vers des ombres, mais les objets réels, eux, ne sont accessibles que grâce à la philosophie, que grâce à un cheminement de la raison. Cette conversion consiste donc à purifier, cette conversion du passage des sens à la raison, purifier l'âme des erreurs issues des sens, jusqu'à ce que Platon appelle l'idée du bien. Chercher en toute chose un élément idéal, ce serait une façon pour Platon de dévaluer moralement les sens et de montrer que pour pouvoir véritablement fonder un monde une théorie de l'éducation, de la justice, une véritable vie politique, il faut nécessairement s'éloigner des illusions de nos sens pour saisir, grâce à la raison, ce qu'est la réalité la plus universelle possible. Et on retrouve hein, les questions politiques et la question du citoyen, de comment les hommes voyaient et considéraient les autres hommes. Sur cette question de la vue, je terminerai avec un petit passage par une référence à un ouvrage paru en 1997, écrit par Jean-Pierre Vernant et Françoise Frontizy Ducroux, qui s'appelle « Dans l'œil du miroir ». La vue n'est pas seulement un sens au sens physique ou physiologique du terme, mais la question du regard vient véritablement participer, au-delà de Platon ici, à un imaginaire social. Et dans la Grèce ancienne, au-delà de Platon, c'est une question d'identité que les auteurs ont montré dans cette œuvre, dans l'œil du miroir, que l'on peut vraiment voir transparaître avec la question de la vue. Les auteurs rapportent que dans l'imaginaire grec masculin, donc le citoyen, le référent citoyen de la Grèce antique, c'est l'homme, la femme, elle est pensée, non pas par rapport à l'homme, mais elle est pensée comme étant radicalement autre. Et cette altérité-là, elle est perceptible dans un artifice. On ne peut tout à fait reconnaître ce qu'est la femme, non pas en comparaison à l'homme, mais dans le regard de la femme qui se constitue elle-même, puisqu'elle n'est pas comparable à l'homme. Et en ce sens, dans l'œil du miroir, les auteurs nous montrent que pour l'homme, pour le citoyen grec, l'usage du miroir était très rare et toujours un peu honteux, parce que le miroir masculin, c'était l'œil d'un autre homme, c'était celui du semblable ou de l'égal. Donc se regarder soi-même, c'était quelque chose de passif et non pas quelque chose d'actif et de citoyen. Donc pour les hommes, à la Grèce antique, se regarder dans un miroir était plutôt mal vu et honteux, alors que on pouvait l'entendre pour une femme, puisque celle-ci n'avait pas d'autre référence que cette altérité du miroir qui pouvait lui renvoyer son image et lui donner une réalité qu'elle n'avait pas dans la vie sociale. C'est donc le mythe, c'est une référence hein, aussi au mythe de Narcisse hein, que Françoise Frontizy Ducroux et Jean-Pierre Vernon montrent dans l'œuvre en montrant que le miroir est interdit à l'homme en raison d'un double danger. Danger d'une fermeture sur lui-même, au lieu de tenir vraiment son rôle de citoyen. Danger d'être assimilé à une presque chose, à un objet par le miroir. En revanche, cet objet du miroir convient parfaitement aux femmes puisque la condition se définit pour elles dans l'imaginaire social antique par la fermeture, la réclusion, l'exclusion de toute activité politique. Donc la femme, elle est donc objet, interdite de toute parole publique et elle est apte à utiliser le miroir sans s'y abîmer pour contempler, rechercher une image d'elle, qui se constitue par là. La vue ne serait donc pas seulement un sens au sens physique ou physiologique du terme qui nous donnerait à percevoir notre environnement et s'articulerait aux autres sens pour donner forme à la réalité, mais elle serait aussi notre capacité à connaître la nature en deçà de la raison et nous ferait constituer un monde, lui donner du sens. Aussi, dans une dimension politique et sociale.